5, 4, 3, 2, 8 et top.
L'auberge espagnole sur Divergence FM, vie associative, culture, science, environnement, tout y passe et tous y passent.
Un artiste, qu'on va dire, au sens du terme large.
C'est la grosse nouveauté de l'économie sociale, a du sens.
On est loin de l'abrogation totale des gaz de schiste en France.
Moi, trash, ça va être pégueux, je pense.
L'idée, c'est de sortir de l'ordinateur.
Tout le truc que je kiffe.
Jardin sec, pourquoi le faire? Quels sont les coûts?
On reconnaît la langue du cinquième élément.
Vraiment un mur de guitare, comme un souffle atomique.
Un public habitué.
C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les entrepreneurs d'identité.
Bah, c'est super, on voit que les motards se mobilisent.
C'est gratuit et on ne vend rien, c'est neutre, donc profitez-en.
L'Auberge espagnole, une émission de la rédaction de Divergence FM, présentée par Gilles Couget.
Tout l'an 2012, ça va se travailler, puis début 2013, on lance ça en France.
Et bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette auberge espagnole du mardi 11 décembre 2012. Gilles Gouget dans le poste, Gérard Viol qui manipule les boutons. Et puis de quoi allons-nous parler? Eh bien on parlera dans un instant avec Nicolas Catin de l'agence locale de l'énergie d'une formation qui a lieu en fin de semaine sur le thème des obligations d'audit et de diagnostic énergie pour les copropriétés, un sujet super sérieux. Ensuite on parlera de crowdfunding, de financement par la foule avec Sébastien Paul et Marielle Rossignol d'Illusion et Macadam qui seront en studio. Et Adrien Aumont, cofondateur de Kiss Kiss Bank Bank, au téléphone. Adrien Aumont qui sera présent ce jeudi pour parler de tout cela. Pour l'heure, eh bien, une première pause musicale. On se retrouve juste après pour parler bilan énergétique.
Our mothers and our fathers, they had lives to live. And today is proof that mistakes were made. There's not a doubt in my heart, they done the best that they knew how. And there's still time for us to make the grave. Got to learn from the mistakes that were made in the past. We've got to clean so that we can use our minds. 'Cause in order to get it together, we've got to get our heads together. Country and our cities, they have been betrayed for money. Oh, and somehow the people, they will make a change. Yeah, there's not a doubt in my mind, if hunger and anger place the blame, there won't be a country left to change. We've got to see what we're doing in the name of comfort. We've got to see, we've got to feel the warning signs. But in order to get it together, we've got to get our hands together.
Everybody's going to make it this time. Everybody's going to make it this time.
Mistakes that were made in the past, we got to clean so that we can use our minds. But in order to get it together, we got to get our heads together.
Everybody's gonna make it this time, les excellents funkadelic. Et oui, tout le monde y arrivera un jour. Y arrivera à quoi ? Eh bien, à se mettre en conformité avec les nouvelles réglementations en matière d'obligation d'audit énergétique. Car depuis le 1er janvier 2012, c'est le cas. Nicolas Catin, bonjour.
Bonjour.
Alors, justement, l'Agence locale de l'énergie de Montpellier organise ce vendredi 14 décembre, après-midi, de 13h30 à 18h, une session longue, une formation pour les copropriétaires sur justement audit énergétique ou simple diagnostic, obligations et opportunités pour votre copropriété. Une formation qui répond à, au cadre légal que j'ai brièvement évoqué, mais aussi justement à l'obligation pour les copropriétaires de s'y conformer, ce qui reste pas toujours évident, on va dire.
Mais effectivement, ne serait-ce que déjà pour avoir la formation. Là, nous, dans cette formation-là, elle fait écho en fait, à un décret qui est sorti le 27 janvier 2012, le décret numéro 2012-111, paru au JO dans la foulée, et donc, qui est relatif en fait, à l'obligation de réalisation d'un audit énergétique pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété de 50 lots ou plus. Mmh. Donc ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'une copro, donc un immeuble collectif, qui aurait donc, plus de 50 lots. Et attention, là, c'est des lots qui ne sont pas définis par la loi, donc c'est tous les lots. Je suis un petit peu technique.
C'est pas nécessairement
des appartements. Un garage, alors ce qui est un peu débile, pour être clair, hein, parce qu'un garage, on ne le chauffe pas, une place de parking, on ne le chauffe pas, mais c'est lots principaux et secondaires, tout est englobé. Donc une petite copro de 10-20 logements, avec quelques garages de 3 parkings, elle peut basculer en fait, dans cette obligation-là. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, toutes les copropriétés qui sont en chauffage collectif sont de toute façon soumises à obligation. Au-delà de 50 lots, on va partir sur un audit énergétique, qui est un document assez complet, et en deçà de 50 lots, de toute façon, les copros seront soumises à une obligation de DPE collectif. Le DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique. Pour que ça parle à tout le monde, hein, c'est l'étiquette énergie qu'on voit sur les annonces immobilières, par exemple. Mmh. Ça, c'est issu du DPE individuel qu'on fait par appartement. Si vous vendez, si vous louez, vous avez l'obligation de fournir ça à l'acquéreur ou au locataire pour qu'il puisse un petit peu se situer par rapport à sa consommation d'énergie. S'il est plutôt A, donc plutôt bien, ou plutôt EF, donc là, plutôt consommateur d'énergie. Enfin, si le logement, en tout cas, est consommateur d'énergie. Donc, l'idée de cette formation-là, c'est vraiment de décrypter un petit peu tout ça, savoir quelle copropriété est soumise à quoi, et si elle est soumise, ou à un DPE collectif ou à un audit, de faire le point, donc avec des professionnels pour voir quel est le contenu de ces diagnostics-là, combien ça coûte et puis à quoi ça sert.
Voilà, parce que alors, ceux qui du coup vont venir et puis vont se dire ah ben je suis pas concerné, ils vont pas forcément partir et rentrer chez eux. Peut-être que même si on n'est pas obligé légalement de le faire, ça vaut toujours le coup de le faire. Mais justement pour la question du coût, c'est à la charge de la copropriété, c'est un audit. Est-ce que c'est fonction de la superficie, du volume du bâtiment?
Alors effectivement, le coût sera bien entendu à la charge donc du syndicat de copropriété, donc l'ensemble des copropriétaires qui vont payer. Du fait que c'est une obligation, genre l'État ne va pas vous financer quelque chose qui est obligatoire, qui est réglementaire. Voilà. Malgré tout, il existe en fait une possibilité pour des copropriétés, on va dire, qui seraient un peu volontaires, qui iraient au-delà de la réglementation qui leur est faite. Bon, par exemple, une copropriété qui serait en chauffage individuel, il n'y aurait que des logements chauffés de façon individuelle et pas collective, donc elle n'a pas d'obligation pour le moment par rapport à ça. Elle peut engager quand même une démarche d'audit énergétique, donc faire appel à un bureau d'études, on peut donner des cahiers des charges hein, par rapport à ça, on est là vraiment pour accompagner. Et puis elle peut bénéficier d'aides financières de l'ADEME Languedoc-Roussillon et de la région Languedoc-Roussillon, donc à hauteur de 50%. Donc ça peut être intéressant de diviser par deux en fait, le coût d'un audit si on veut le faire de façon volontaire. Par contre, effectivement, vous le rappeliez, si la copro elle est soumise à obligation, bon, ben, voilà, c'est à elle se débrouiller entre guillemets, pour le financer.
Mmh. Alors cette loi est sortie, comme à chaque fois qu'on prend des décisions politiques dans ce genre, ça crée des marchés entre guillemets. Est-ce qu'il y a des certifications, des labellisations qui existent sur les cabinets, les bureaux d'études qui réalisent ces audits pour être sûr de ne pas se retrouver avec... On va dire, si j'en avais pris un autre cabinet d'études, eh ben, j'aurais pas eu les mêmes résultats ou j'ai payé deux fois le prix par rapport à un autre, etc.
Alors, il n'y a pas en fait de... Bon, c'est pas aussi bordé que ça. En fait, la loi, dans le cadre de ce fameux décret, puis il y a un projet d'arrêté là, qui va vraiment venir le compléter, va en fait définir un niveau d'expérience requise par rapport à ces bureaux d'études qui vont effectuer ces audits énergétiques, et puis aussi les éléments en fait, techniques de contenu. En gros, bah, qu'est-ce qu'on doit être dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc ça permet d'ailleurs de vérifier un petit peu. Et puis au-delà, nous, je vous disais, on a des cahiers des charges assez étoffés, parce que quitte à faire venir une entreprise privée, enfin externe, qui va auditer un petit peu le bâtiment, donc la qualité de l'isolation, la qualité de la ventilation, le chauffage, la régulation, la distribution, type de radiateur ou autre, qui va caractériser et puis donner des pistes d'amélioration. Bon, bah, quitte à ce qu'ils viennent, autant leur faire aussi plancher un petit peu quelques heures sur l'éclairage, par exemple, tout ce qui consomme de l'énergie dans la copropriété, et puis avoir un bilan vraiment très complet.
Alors lors de cette formation vendredi après-midi de 13h30 à 18h, pour laquelle on rappelle qu'il reste encore des places, on peut composer le 04 67 91 96 deux fois, 04 67 91 96 96. Il y aura des professionnels spécialisés dans le secteur, évidemment les conseillers de l'agence locale de l'énergie, mais aussi des témoignages de présidents de conseils syndicaux, parce que là aussi ça peut être intéressant de voir, on va dire, du côté syndic, comment ça se passe pour ceux qui ont déjà, on va dire, fait ce pas. Est-ce qu'il y a déjà beaucoup d'audits qui ont été réalisés dans le courant de l'année à Montpellier, par exemple?
Alors, on n'a pas vraiment de chiffres exhaustifs sur ce qui a été fait concrètement sur Montpellier dans le courant de l'année. Mais par contre, on sait que l'ADEME et la région avaient financé déjà l'an dernier donc des audits qui, à l'époque, n'étaient pas obligatoires. Donc, les copros qui avaient senti le truc, ou en tout cas qui étaient motivés pour le faire, ont pu bénéficier d'une aide. Et il y a une douzaine d'audits qui ont été faits. Donc, c'est relativement peu. Plus ceux qui se sont faits, je dirais, peut-être de façon informelle, et les gens ont décroché de subventions. Donc c'est un marché qui pour l'instant était un petit peu naissant, qui était beaucoup développé notamment dans les régions plus peut-être plus peuplées ou un peu plus sensibles aux aléas climatiques, peut-être sur les réflexions de consommation d'énergie, donc Île-de-France, du côté de Rhône-Alpes ou des gens de ces côtés-là. Mais du coup j'ai perdu le fil de la question.
Bah oui, on n'avait pas vraiment de chiffres pour savoir combien de personnes ont déjà réalisé ces audits. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, le témoignage de président de conseil syndicaux pourra être un bon éclairage aussi.
Oui, tout à fait, merci. Merci de ramener dans le droit chemin. Donc effectivement, il y aura un témoignage d'un président de conseil syndical qui a fait faire un audit l'an dernier, et donc il pourra nous dire un petit peu bah, voilà, comment ça s'est passé, quel ressenti il a eu par rapport à ça, concrètement à quoi ça va leur servir dans leur copropriété. Bon, c'est une très grosse copropriété hein, qui est du côté Antigone là sur Montpellier, donc c'est aussi intéressant parce que c'est une des plus grosses copros de la ville. Mm-hmm. Donc c'est intéressant, il va pouvoir bien sûr nous donner des ordres de prix, et puis aussi je pense des conseils très essentiels sur la préparation de l'audit, parce que là encore j'insiste, hein, faire venir, c'est des prestations qui coûtent quand même quelques milliers d'euros, donc c'est pas des dépenses qu'on peut faire à la légère, donc autant faire venir l'auditeur de façon préparée, et puis donc déjà rassembler des données telles que les consommations d'énergie, donc aller poser ces questions là au syndic, et puis aussi regarder un petit peu déjà toutes les questions qu'on souhaiterait poser pour éventuellement mettre des options dans l'audit pour, je vous disais, j'évoquais l'éclairage par exemple, mais c'est typiquement le cas. L'éclairage, bon ben voilà, quitte à faire venir un professionnel, autant le faire plancher vraiment sur l'ensemble des consommations d'énergie de la résidence.
Mmh. Audit énergétique ou simple diagnostic, obligations et opportunités pour votre copropriété, c'est ce vendredi 14 décembre 2012 de 13h30 à 18h. Ça se passe à la Maison de la Démocratie, 16 rue de la République, non loin de la gare. Et je rappelle le numéro de téléphone pour s'inscrire, 04 77 91 96 96 91 96, deux fois. On précise que c'est organisé en partenariat avec l'ARC Languedoc, qui est l'association des responsables de copropriété en Languedoc. Voilà, le rendez-vous est pris. Nicolas Catin, merci beaucoup.
Merci à vous.
Le prochain Café Climat, ce sera...
Ce sera au mois de février, 12 ou 13 février de mémoire, le mardi, voilà, à voir sur l'agenda. Et là, on fera un truc un peu sympathique. On va faire en fait un test d'étanchéité à l'air sur les locaux de l'Agence locale de l'énergie, donc sur nos propres locaux. À Antigone, là, sous le polygone. Donc ça va être sympathique et on va pouvoir tester, voir par où rentre l'air, où sont les fuites et comment remédier, bien sûr, à ces consommations inutiles.
Et pourra peut-être permettre de vérifier l'adage selon lequel les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Ça, nous en parlerons à cette occasion. On va se quitter avec The Dynamics qui nous interprète Money. The Dynamics dans l'auberge espagnole. Et je salue Bruno Bertrand qui est arrivé de l'autre côté de la vitre. On va parler argent justement. Et c'est Sébastien Paul d'Illusion et Macadam qui est avec nous. Tandis que Marielle Rossignol ne parlera pas. Elle est restée en dehors du studio. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Et on est aussi au téléphone avec Adrien Aumont qui est cofondateur de Kiss Kiss Bank Bank et qui est à l'autre bout de la France. Bonjour Adrien.
Bonjour à tous.
Alors ce jeudi, tu seras, Adrien, présent à Montpellier pour parler de crowdfunding, un terme anglicisé qu'on peut traduire en français par le financement par la foule. On avait déjà reçu Vincent Ricordo une paire de fois sur les ondes pour parler justement de Kiss Kiss Bank Bank, qui est un site, une plateforme à travers laquelle les gens qui ont des projets peuvent appeler les internautes à les financer. Une aventure qui se déroule plutôt bien et cette venue à Montpellier souligne aussi le fait que Illusion et Macadam et Kiss Kiss Bank Bank sont partenaires, plus que partenaires, puisque Illusion et Macadam fait partie des mentors de Kiss Kiss Bank Bank. C'est bien ça, Sébastien ?
Tout à fait, c'est le terme.
Alors, c'est une notion, on va dire, qui revient en force, mais qui rappelle un petit peu les mécanismes de quand l'État ne fait pas, ou quand ça n'est pas fait, les gens le font eux-mêmes. Là, en l'occurrence, il s'agit de financer des projets. Ça veut dire que les banques ne sont plus prêtes à le faire. Donc, du coup, les gens organisent eux-mêmes leur financement par la foule. Est-ce que c'est un signe des temps ?
En quelque sorte, oui. Enfin, je pense qu'Andrea en parlera mieux que moi, mais il me semble qu'il y a autour de nous beaucoup de manières de s'organiser de la sorte. Qu'il y a de plus en plus, les gens se réapproprient, je crois, les citoyens se réapproprient les choses. On le voit dans beaucoup de domaines, dans le logement, on le voit à l'œuvre à beaucoup d'endroits, et pourquoi pas aussi sur la question du financement, où le do-it-yourself existe depuis longtemps, évidemment, l'autoproduction. Et là, je crois que ce qui est induit par le web 2.0, permet de le faire à une autre échelle et permet à faire, je crois, ce qu'on faisait depuis longtemps, mais en tout cas, à le rendre beaucoup plus clair, beaucoup plus légal et à le réaliser à une plus grande échelle.
Voilà, toucher à avoir un impact particulièrement important. Alors, Adrien, Kiss Kiss Bank Bank, c'est une aventure qui démarre plutôt bien et qui se poursuit plutôt bien avec le soutien aussi de groupes importants. Ça, on s'y serait peut-être pas nécessairement attendu. Comment vous avez réussi ce tour de force pour amener avec vous des mentors parfois qui sont de taille très importante et comment vous êtes perçu, vous, par les banques ou la poste ou que sais-je ?
Alors, ce qui était important en effet c'était important de resituer en effet Kiss Kiss Bank Bank et le crowdfunding au sein de l'économie collaborative, comme a pu le dire Sébastien. Aujourd'hui, les gens ont une mobilité partagée grâce au covoiturage. Les gens peuvent d'une certaine manière acheter de la nourriture d'une autre manière, avec moins d'interlocuteurs, moins d'intermédiaires, avec la ruche qui dit oui par exemple. Vous pouvez vous loger grâce à Bedi Casa, qui est un concurrent d'Airbnb, qui a été monté par une entrepreneuse montpelliéraine. Et vous pouvez aussi vous financer avec la foule, avec votre communauté, avec les internautes. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, les banques n'ont jamais été vraiment très actives dans le financement de la culture et de l'innovation. L'État a toujours joué un rôle central au sein de ces financements et des financements privés ont toujours été mis en place pour ce type d'émergence. Mais que ce soit l'État ou les localités, ainsi que les producteurs ou les financeurs privés, se sont retirés un petit peu ces derniers temps à cause d'une crise économique qu'on peut tous constater dans notre quotidien. Et c'est vrai que les gens ont décidé de se financer autrement, en créant du lien social, avec des nouvelles règles du jeu. Et comme vous pouvez le constater en vous baladant sur Kiss Kiss Bank Bank, les règles du jeu sont réellement différentes. On est ici dans l'idée d'un lien social, d'un lien émotionnel entre le créateur et sa communauté, et entre son projet et sa communauté, puisqu'on parle de contrepartie et non pas de dividendes. Il n'est pas ici question de financer un projet et de prétendre à recevoir des dividendes, puisqu'on parle de secteurs qui mettent du temps à générer des dividendes ou ne peuvent pas toujours en faire. Donc on est dans une sorte de mécénat 2.0, et aujourd'hui, pour être très honnête, on est partenaire de la Banque Postale, parce que la Banque Postale voit ça d'un très très bon œil, puisque c'est pas forcément son terrain de prédilection, et en même temps, c'est une banque qui a un réel regard sur la société, et qui, dans son ADN, par le fait que la Poste distribue du courrier tous les jours, en fait, d'une certaine manière, à tous nos concitoyens, on va dire que c'est la banque la plus proche des gens et de nos concitoyens, et que c'était normal pour elle de venir aider, donner du pouvoir aux gens qui ont décidé de se débrouiller par eux-mêmes et de faire du do-it-yourself. Donc c'est un partenariat très complémentaire et vertueux, en tout cas, de ce qu'on peut constater aujourd'hui.
Oui, c'est vrai que La Poste s'était aussi distinguée ces dernières années avec son observatoire de la confiance, etc. Donc des initiatives qui sont pas forcément, qu'on retrouve pas, on va dire, dans les banques les plus privées, les plus libérales. Et même si c'est peut-être en passe de disparaître maintenant, avec aussi une culture de la chose publique, pour pas dire du service public.
Écoutez, le service public est en difficulté comme un petit peu tous les secteurs actuellement, et donc d'une certaine manière, tous ces gens sont aussi en train de mener des réflexions pour savoir comment reprendre une position intéressante au sein de la société. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que ce soit les collectivités territoriales ou l'État, ou finalement tout le monde est en train de se poser ces questions, de remettre en question cette position. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il y a un mouvement très très fort des citoyens qui reprennent leurs droits, ou en tout cas qui reprennent possession de leur pouvoir et leur confiance en eux, et qu'il y a une société qui est en train de changer, qui est peut-être en train de s'horizontaliser, ce qui nous permet à tous, en fait, d'être dans des liens interpersonnels et plus dans des liens institutionnels. Et la grande question des mois et des années qui viennent, c'est de savoir comment ces institutions vont retrouver une place au sein de ces nouveaux rapports interpersonnels.
Alors, pour autant, le crowdfunding, ça a l'air bien et tout, mais c'est pas Harry Potter qui l'a inventé. Il suffit pas de taper d'une baguette magique et de s'ouvrir un projet. On l'avait vu avec Vincent Ricordo. Il faut quand même s'y atteler, être hyper présent, hyper assidu sur les outils de réseautage sur Internet pour bien faire parler de son projet, être assez créatif pour proposer des choses originales, amusantes et inventives pour que les gens soient attirés par les projets. Quelque part, c'est pas gratuit, il faut y consacrer du temps et de l'énergie quand même.
En effet, c'est si l'argent tombait du ciel ou venait des quatre coins du web, tout ça serait beaucoup plus facile, et ce serait en effet un tour de magie, comme vous l'avez dit. Il est question ici de la communauté d'un créateur de projet. Tout notre travail, c'est de faire beaucoup de pédagogie auprès de tous les créateurs, afin qu'ils comprennent quel visage à leur communauté, comment les structurer et comment la mobiliser pour arriver à se financer. Aujourd'hui, quand on a commencé, 33% des projets réussissaient à se financer. Aujourd'hui, on approche des 60% de réussite, et notre moyenne est un petit peu au-dessus de 50%. Donc vous voyez que notre outil et notre manière de travailler s'améliorent de jour en jour, et les gens qui nous utilisent, eux aussi, apprennent de plus en plus à mobiliser leur communauté afin de financer leurs projets. C'est d'ailleurs tout ce qu'on verra ensemble jeudi. C'est le but de cette intervention et de l'organisation d'Illusion Macadam, c'est de pouvoir essayer de former finalement tous les créateurs montpelliérains qui s'intéressent à ces nouvelles techniques de financement. Et mon but sera de leur donner toutes les clés de lecture pour qu'ils arrivent à se financer le mieux possible.
Voilà, pour qu'ils arrivent à déterminer s'ils sont bankable, comme on dit. Donc c'est ce jeudi 13 décembre à 17h à la Laiterie des Beaux-Arts à Montpellier. Et puis il y aura peut-être Hag qui sera présent, puisque lui, il a réussi son projet grâce à un financement participatif, puisque ce sera aussi l'occasion pour ceux qui ont déjà testé, utilisé et réussi de partager leur expérience. Et j'imagine qu'Illusion et Macadam sera dans la place.
Et bien sûr, c'est une rencontre qu'on organise, on invite KissKiss pour évidemment parler de ce mentorat, qu'est-ce que c'est, et surtout parler du financement participatif. Et il y a beaucoup d'autres porteurs de projets montpelliérains qui passent par KissKiss ou d'autres plateformes de financement participatif et qui ont une expérience à faire partager et qui seront sûrement dans la salle.
Adrien Aumont, Sébastien Paul, on vous remercie d'être venus nous annoncer ce rendez-vous. Je rappelle, c'est jeudi 13 à 17h, c'est à la Laiterie, quartier des Beaux-Arts à Montpellier. Et on va se quitter avec Musica Nuda e Complici. Au revoir.
Complici, più che due amanti siamo complici. Finiti ormai gli slanci facili. Sappiamo troppo di noi.